France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Les proxys affaiblis, les alliés tels que la Russie et la Chine, eh bien ils condamnent mais n'interviendront pas. Alors dans cette guerre qu'ils subissent, sur qui l'Iran peut-il compter? Ces alliés historiques étaient-ils seulement des partenaires de circonstance? Ces émanations au Liban, en Irak, au Yémen, en Syrie, à Gaza, peuvent-ils tout de même participer à une réplique? Deux invités pour en discuter ce soir. Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-Orient. Vous êtes chargée de cours à Sciences Po Paris et vous avez dirigé notamment l'ouvrage intitulé Le Livre Noir de Gaza qui est apparu aux éditions du Seuil en octobre 2024. Face à vous, je dis bien face, Adel Bakaouad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'auteur du livre intitulé La Décomposition du Moyen-Orient, trois ruptures qui ont fait basculer l'histoire, un ouvrage qui est apparu aux éditions Talendi en mai dernier. Merci à vous deux donc d'être présents ce soir dans Question du Soir. Et je vous cite la dépêche AFP, une dépêche AFP tombée dans l'après-midi. L'Iran se targuait il y a des années de contrôler quatre capitales arabes, Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa. Déjà affaibli, cet axe de la résistance menace aujourd'hui de s'effondrer, ce qui bouleversait la donne régionale, estiment des analystes. Est-ce que vous êtes d'accord, Agnès Levallois, pour commencer avec ces analystes? Au fond, il y a un effondrement des proxys depuis plusieurs mois, d'ailleurs peut-être depuis le 7 octobre en particulier.
Oui, au lendemain du 7 octobre, dans la guerre qu'Israël a lancée contre les pays voisins, on a assisté à un effondrement ou un affaiblissement, en tous les cas sérieux, de l'axe de la résistance, et avec en plus, au lendemain de la chute du régime syrien, du régime de Bachar el-Assad, ce point qui était la Syrie et qui permettait effectivement de faire la jonction, Téhéran, Bagdad, Damas et le Liban avec le Hezbollah, et bien avec cette pièce qui est tombée, ça a contribué à l'affaiblissement de cet axe qui aujourd'hui n'est plus du tout en mesure de représenter un soutien à l'Iran. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cet axe de la résistance avait été mis en place, avait été constitué par Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution, qui est donc qui a été tué dans les bombardements israélo-américains il y a quelques jours. Ça avait été vraiment sa conception de cet axe pour soutenir l'Iran. Et donc aujourd'hui, effectivement, cet axe est sérieusement affaibli. Le seul acteur, mais je pense qu'on va y revenir plus en détail, c'est le Hezbollah, hein, on l'a vu, qui a décidé de lancer des attaques contre Israël, provoquant une riposte d'une violence absolument inouïe contre le Liban, avec l'idée de la part d'Israël, me semble-t-il, d'en finir une bonne fois pour toutes, pour reprendre la terminologie israélienne, avec le Hezbollah, puisque Israël considère que le Hezbollah n'était pas complètement désarmé, alors qu'au lendemain de la guerre de septembre 2024 menée par Israël contre le Hezbollah, l'idée était d'anéantir complètement les capacités du Hezbollah à mener des opérations. Force est de constater que là, le Hezbollah dispose encore de capacités, même si elles aussi sont quand même sérieusement amoindries.
On va revenir sur le Hezbollah et sur tous ces proxys que vous avez égrenés dans ces explications. Je reste un instant, Adel Bakaouad, sur le 7 octobre, sur la séquence ouverte par le 7 octobre. En quoi, c'est vous qui l'écrivez, cette séquence marque-t-elle pour les proxys eux-mêmes une véritable rupture?
Oui, absolument. Ce qui se passe même en Iran actuellement, pour moi, n'est pas un point de rupture. La rupture commence avec le 7 octobre. Tout ce qui s'est passé en Syrie, en Iran, en Irak, au Liban, au Yémen, partout au Moyen-Orient, ça commence avec la rupture du 7 octobre. Ce sont les conséquences du 7 octobre. Sans le 7 octobre, cet événement tellement majeur, aussi majeur que le 11 septembre, aussi majeur que le printemps arabe, on serait pas là. Le régime Assad serait encore là, Ayatollah Khamenei encore là. Écoutez, avant le 7 octobre, ce Moyen-Orient était vraiment divisé ou réparti entre deux modèles. Le modèle saoudien, mis en place par Mohammed bin Salman, à savoir un autoritarisme basé sur la sécurité, la stabilité et le développement économique, jamais parlé de la démocratie, et ça convenait parfaitement aux Américains et aux Européens qui étaient très très fatigués fatigués avec les guerres civiles provoquées par le printemps arabe. Et ensuite, le modèle iranien, ce que j'appelle l'ordre milicien. L'ordre milicien en Iran, en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen.
Incarné par ses proxys.
Exact. Enfin, je ne sais pas si le mot proxy est tout à fait exact ou pas. Moi, j'appellerais l'ordre milicien parce qu'en fait, c'est une manière d'être, c'est une manière d'exister, c'est une socialisation. Ce n'est pas que des proxys, ce n'est pas que des groupes qui se battent pour la République islamique d'Iran. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, le 10 mars 2023, à Pékin, l'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran signent un accord. Et dans cet accord-là, c'était un moment très très important. Le 7 octobre, c'est la fin de cette répartition. C'est la fin de ce que j'appelle ce nouveau Sykes-Picot entre l'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran. Oui, globalement, pour répondre à votre question, l'axe de la résistance est terriblement affaibli.
Je voudrais vous faire entendre la voix du président des États-Unis, Donald Trump, qui parle, lui, des proxys, mais on reviendra sur le terme et on le travaillera.
In 1983, Iran's proxies carried out the Marine Barracks bombing in Beirut.
En 1983, les proxys de l'Iran ont perpétré l'attentat de Beyrouth, qui a tué 241 militaires américains. En 2000, ils étaient probablement impliqués dans l'attaque contre l'USS Cole. Les forces iraniennes ont tué et mutilé des centaines de militaires américains en Irak. Les proxys du régime iranien ont continué à lancer d'innombrables attaques contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient ces dernières années. Du Liban au Yémen et de la Syrie à l'Irak, le régime a armé, entraîné et financé des milices terroristes qui ont imbibé la terre de sang et de tripes. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes agissant par procuration dans la région ne puissent plus déstabiliser la région ni le monde et attaquer nos forces.
Quel a été, Agnès Levallois, depuis les années 80, le travail concret de ces proxys, de ces milices en faveur de l'Iran ? Ont-ils représenté dans le temps, dans la durée, de véritables alliés ?
Oui, alors je ne sais pas si on peut parler véritablement d'alliés ou plutôt de proxys ou de milices qui représentaient des intérêts et avaient des intérêts dans cette relation privilégiée avec l'Iran. Donc, dans certains cas, c'était même plus que des alliés. Dans le cas du Hezbollah, par exemple, au Liban, situation que je connais mieux que les autres, on voit bien que le Hezbollah est vraiment un parti, un mouvement, hein, avec deux composantes, une militaire, une politique, même si certains n'acceptent pas cette distinction entre les deux, et qui véritablement ont mené une stratégie en accord complet avec les Iraniens, surtout la branche militaire, parce que la branche politique, au fur et à mesure, s'est intégrée dans le paysage politique libanais avec l'idée de devenir avant tout un mouvement libanais, mais il y a une partie du Hezbollah qui est restée véritablement, j'allais dire presque inféodée à l'Iran, prenant ses ordres et toute sa stratégie en complémentarité avec l'Iran. Et n'oublions pas un financement aussi qui venait de l'Iran. Donc à partir du moment où vous avez un financement aussi pour vivre d'un autre pays, vous êtes quand même complètement conditionné et vous êtes complètement sous la coupe dans les orientations qui ont été menées et qui sont prises par ce mouvement. Eh bien, vous les faites en étroite collaboration avec l'Iran. Et ce qu'on a vu, et là encore, le 7 octobre, c'est une date qui va revenir souvent dans notre discussion parce que c'est une date effectivement importante et avec qui représente une rupture. Et ce que l'on voit, c'est qu'un autre proxy, alors qu'il n'est pas du tout de même nature pour moi que le Hezbollah, le Hamas, lui, a mené cette opération et a conçu cette opération, pas forcément en accord avec les Iraniens. Les Iraniens ont apparemment été au courant de cette opération, mais pas dans les détails, et que là, au contraire, on a ce qu'on a appelé un proxy, le Hamas, qui a mené une opération, mais en ayant une certaine autonomie par rapport à ce soutien qu'a représenté l'Iran, parce que l'Iran s'est présenté ces dernières années comme étant le dernier pays qui continuait finalement à soutenir les Palestiniens, à soutenir la cause palestinienne. Mais ça n'a pas empêché le Hamas d'avoir son propre agenda et de mener cette opération selon son agenda qui correspondait à sa priorité.
Quelle est donc, Adel Bakawan, la marge de manœuvre véritable de ces acteurs ? Est-ce qu'effectivement, comme le souligne Agnès Levallois, cela dépend très très largement des proxys que l'on évoque et surtout des contextes nationaux en particulier ?
Écoutez, 1980, l'Iran entre en guerre, enfin, l'Irak entre en guerre contre la République islamique d'Iran, parce que là, c'est important de... Voilà. 1982, les Pasdaran mettent en place deux organisations miliciennes. La première, c'est le Hezbollah libanais. La deuxième, c'est Badr, irakien. Autrement dit, les deux, en même temps, la même année. Hein, la même année. Et donc, c'est très important. C'est à partir de ce moment-là, fondateur, la question de l'ordre milicien, de la milicisation, de ce système milicien au Moyen-Orient commence. Pour répondre à votre question rapidement, le Hezbollah, il y a une dimension libanaise et une dimension iranienne. La dimension militaire de Hezbollah est une dimension iranienne. Le Hezbollah militaire n'a pas l'autonomie décisionnelle. L'ordre vient directement des Pasdaran. Et c'est vrai aussi pour les autres milices irakiennes et auparavant syriennes. Par exemple, lorsque le chef des Kataïb Hezbollah en Irak, on lui demande qui est votre commandant en chef. Sur le papier, c'est le premier ministre irakien. Mais lui, spontanément, il répond, il dit, c'est le guide suprême de la République islamique d'Iran. Mais par contre, si on s'arrête là, on comprend rien du fonctionnement des organisations miliciennes. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah, certes, il a une dimension militaire, mais il a aussi une dimension politique avec plusieurs députés à l'Assemblée nationale.
Une dimension sociale également, une dimension médiatique.
Avec, et bien 12 plus large. Avec 12 ministres au sein du gouvernement. Et ensuite, le Hezbollah dispose d'une dimension, un programme social. Pour chaque catégorie sociale, le Hezbollah a une organisation. Donc, c'est très facile de faire l'abstraction de ces les deux dimensions pour se focaliser uniquement sur la dimension militaire.
Comment vous comprenez, Agnès Levallois, que le Hezbollah ait franchi le cap il y a quelques jours du soutien à l'Iran ? On connaît, on sait plutôt à quel point le Hezbollah a été profondément affaibli par les différentes interventions israéliennes, hein, la mort de son chef Hassan Nasrallah tué par une frappe israélienne, beaucoup aussi de ses dirigeants, de ses représentants tués en septembre 2024 dans cette opération organisée avec des fameux beepers. Bref, le Hezbollah aujourd'hui est rentré en guerre en soutien de l'Iran contre Israël. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Bien justement, je pense que c'est vraiment, alors là, une erreur politique et stratégique majeure de la part du Hezbollah. D'ailleurs, beaucoup d'analystes...
Il n'aurait pas dû y aller.
Non, il n'aurait pas dû y aller. Et beaucoup d'ailleurs d'analystes libanais considéraient que cette fois-ci, le Hezbollah n'irait pas. Beaucoup le disaient. Et moi, dans tous les contacts que j'avais au Liban, nombreux étaient ceux qui me disaient, mais cette fois-ci, le Hezbollah n'ira pas. Pour une raison très simple, et vous l'avez souligné, c'est que le Hezbollah a perdu beaucoup de soutien sur la scène intérieure libanaise en ayant entraîné le Liban dans la guerre, dans les suites du 7 octobre, et qui a provoqué, lorsque le Hezbollah a décidé de rentrer en guerre contre Israël en soutien exprimé pour le Hamas, et donc ce qui a impliqué la riposte israélienne qui a été terrible. Il faut savoir que sur une zone de 20 km à l'intérieur du territoire libanais, tous les villages ont été détruits, exactement à l'image de ce qui a été fait à Gaza. Donc beaucoup, et là ce sont des populations majoritairement chiites libanaises. Donc, il y a toute une partie de la communauté libanaise, la communauté chiite libanaise, qui à ce moment-là est rentrée, pas en confrontation, mais a vraiment dénoncé le choix qui avait été fait par le Hezbollah de rentrer en guerre contre Israël en raison des lourdes conséquences que ça a eues.
Sur les Libanais eux-mêmes,
là je parle vraiment de la population libanaise. Et donc là, les analystes, lorsqu'on parlait des bruits de bottes dans le Golfe avec l'idée que les Israéliens et les Américains allaient bombarder l'Iran, beaucoup disaient, mais cette fois-ci, le Hezbollah ne va pas commettre la même erreur parce qu'il a perdu beaucoup de soutien et donc il perd aussi sa légitimité d'acteur politique sur la scène politique libanaise. Or, ce que l'on voit, c'est que le Hezbollah y est allé.
Alors,
et ce qui, à mon avis, dessine une chose, c'est que la séparation que j'ai faite au début de mon intervention entre la branche politique et la branche militaire continue à être valable, dans le sens où il y a ceux qui sont vraiment... La branche militaire qui considère qu'elle ne peut pas couper les liens avec l'Iran et qu'elle se doit de venir en soutien avec l'Iran et que les gardiens de la révolution lui ont probablement demandé. Mais il y a une autre partie du Hezbollah qui se rend compte que c'est un suicide politique et qui n'est pas du tout d'accord. Et donc je ne serais pas étonnée après cette séquence, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais que cette distinction, cette séparation apparaissent beaucoup plus clairement parce qu'il y a une partie des membres de Hezbollah qui entendent continuer à être un acteur politique et continuer à jouer un rôle politique.
Et on précise par ailleurs en miroir qu'Israël ne fait plus lui-même cette distinction entre les deux branches, puisque l'ambition désormais de l'opération menée dans le sud Liban et également à Beyrouth, c'est bien d'éradiquer l'ensemble des branches du mouvement politique, social, militaire. Adel Bakawan.
Écoutez, le Hezbollah avait une occasion historique pour se normaliser depuis un an.
En ne bougeant pas.
Non, depuis un an, il y a un vrai dialogue. Vous avez un président de la République qui refusé depuis un an d'engager des moyens militaires pour désarmer le Hezbollah. Or, on sait très bien que ce président était sous pression américaine, européenne, saoudienne, etc.
Il y avait
et israélien et tout le monde. Mais le président était très très pragmatique, a engagé un dialogue très pragmatique, très sérieux avec les dirigeants de Hezbollah. Malheureusement,
le président, c'est Joseph Aoun.
Voilà, malheureusement, le Hezbollah, les cadres dirigeants, enfin les nouveaux cadres dirigeants de Hezbollah n'ont pas saisi cette chance-là pour se normaliser et devenir un parti politique, social, comme les autres partis. Un, deux, ça c'est une erreur majeure. La deuxième erreur, c'est que il n'était personne à demander au Hezbollah. Juste avant le déclenchement de cette guerre, il s'est fixé une ligne rouge en disant qu'on n'intervient pas dans cette guerre sauf si le guide suprême est touché. Là, il y a un engagement public devant toutes les caméras du monde. Ils n'étaient absolument pas obligés.
C'est pas la première fois qu'un mouvement comme celui-ci se dédirait en public malgré des engagements pris.
Oui, mais bon, enfin, quand vous vous engagez publiquement. Et ensuite, cet engagement militaire de Hezbollah, je pense que conduira le Hezbollah vers un suicide, conduira le Hezbollah militaire vers sa fin et donnera raison à la fois au président de la République et au premier ministre qui voulait absolument que le Hezbollah se désarme d'une manière pacifique. Là, désormais, ça sera d'une manière violente et ultra-violente. Et ensuite, vous avez posé la question, pourquoi le Hezbollah s'est engagé? Ben, écoutez, quand vous regardez la stratégie globale, la stratégie régionale de la nouvelle direction, conduite par Ali Larijani, moi, personnellement, je pense que Pezishkian, le responsable du pouvoir judiciaire, un représentant du conseil des Khoubara, etc. C'est la façade. Dans les coulisses, c'est vraiment Larijani qui dirige.
Agnès Levallois acquiesce.
Voilà, qui dirige la République. Et donc là, cette stratégie de Larijani, c'est quoi? C'est qu'il fait exactement ce que le guide suprême n'a jamais fait depuis 1989, Khamenei. C'est qu'en attaquant tous les pays du Golfe, même au-delà des pays du Golfe. Ça, c'est la radicalisation de la conflictualité. Et je pense que la République islamique d'Iran, derrière elle, le Hezbollah et les autres milices qui ne sont pas encore entrés, ils font une erreur stratégiquement majeure en attaquant les pays arabes et en attaquant Israël de la part de Hezbollah.
Alors justement, vous parlez, Adel Bakawan, des autres proxys qui n'ont pas encore franchi le pas franchi par le Hezbollah. On pense notamment aux Houthis au Yémen, on pense à la branche du Hezbollah en Irak. Est-ce que ces soutiens-là, ces soutiens historiques de l'Iran, vont franchir le pas et passer, entrer dans cette guerre, Agnès Levallois, selon vous?
Écoutez, je crois que les Houthis qui ont fait quelques opérations, hein, alors qui ont subi quand même des bombardements très violents de la part d'Israël, ne l'oublions pas. Hein, il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées ces derniers mois par Israël contre les Houthis parce qu'ils avaient attaqué surtout des navires en mer Rouge et que ça, c'était inacceptable par Israël. Et donc, il y a quand même une partie des responsables yéménites qui ont été tués dans ces différents bombardements.
Bon, mais comme pour le Hezbollah, on vous dira.
Comme pour le Hezbollah. Mais les Houthis sont quand même plus loin de ce champ de bataille, si je puis dire. C'est-à-dire que le lien organique, me semble-t-il, entre l'Iran et le Hezbollah n'est absolument pas le même que celui entre l'Iran et les Houthistes. Au départ, les Houthistes n'avaient pas ce soutien des Iraniens. Les Iraniens ne s'intéressaient pas aux Houthistes. Ce n'était pas du tout une priorité. Là, je parle avant le 7 octobre, et quand cet axe de la résistance a été mis en place.
Rappelons peut-être d'un mot qui sont les Houthis ou les Houthis, c'est selon cette branche
du
chiisme
inscrite au Yémen. qui est au Yémen et qui, alors à la faveur, là on est dans les conséquences du mouvement de contestation de 2011, ce mouvement a pris la capitale et c'est ce qui a conduit à l'époque les Saoudiens à rentrer en guerre contre les Houthis, parce que pour les Saoudiens c'était inacceptable que cette milice plus proche des chiites puisse représenter un danger, puisque l'Arabie a toujours considéré que le Yémen était son arrière-cour et que c'était l'Arabie saoudite qui devait diriger de fait ce qui se passait au Yémen. Donc, à ce moment-là, les Iraniens ont apporté leur soutien aux Houthis parce que pour les Iraniens, c'était une façon aussi de dire quelque chose à l'Arabie saoudite à un moment où les relations entre les deux pays n'étaient pas bonnes. Mais le lien, j'allais dire, organique entre les Iraniens et les Houthis est beaucoup moins fort que le lien qui a existé entre les Iraniens et les différents proxys dont on parle, et dont l'exemple pour moi est le plus fort, c'est le Hezbollah, c'est cette création par les gardiens de la révolution du Hezbollah au Liban. Donc aujourd'hui, est-ce que les Houthis vont finir par entrer dans la danse, passez-moi l'expression, je ne sais pas, mais je pense que c'est moins évident que cette volonté du Hezbollah de montrer qu'il reste fidèle, finalement, à leur tutelle qui est l'Iran.
Vous êtes d'accord, au fond, Adel Bakawan, on ne peut pas comparer l'un et l'autre parce que le Hezbollah est pratiquement une émanation quasi directe de l'Iran, là où les Houthis, c'est plus une affaire de circonstances et surtout de rapport de force vis-à-vis de l'Arabie saoudite.
Oui, je suis absolument d'accord avec cette grille de lecture. Je l'ai analysé en détail dans mon livre. C'est que le Hezbollah a été directement conçu, fondé, armé, financé, accompagné
par l'Iran,
par les Pasdaran, par la République islamique d'Iran. Or, les Houthis ont une autre historicité complètement différente. Certes, il y a eu des interactions. Moi, je considère le lien entre les Houthis du Yémen et la République islamique d'Iran comme dynamique et non pas mécanique. Or, le lien entre la République islamique d'Iran et le Hezbollah, la branche militaire, c'est un lien mécanique. On appuie sur un bouton, c'est directement, c'est j'exagère.
Les Pasdaran donnent un ordre.
Donnent un ordre. Et c'est pareil pour les autres milices irakiennes, enfin, pour certaines milices irakiennes dont on va parler. Bien évidemment, pour les Houthis, j'ai l'impression, à ce jour-là, vous me corrigez, à ce jour-là, je n'ai aucune déclaration des Houthis par rapport à, ni avant la guerre, ni pendant cette guerre-là, par rapport à ce qui se passe.
Hein. Donc comme ils sont totalement désengagés.
Comme si les Houthis, ils avaient appris par pragmatisme de ce qui s'est passé après les frappes terribles quand même américano-israéliennes contre les il faut dire que les infrastructures militaires dire aussi lourdement touchées hein. Et ensuite il faut savoir aussi que les rapports de force à l'intérieur du Yémen ont bougé hein, entre le sud et le nord. Hein, on a un changement radical, surtout les désaccords entre les Émiriens, les Saoudiens. On va pas entrer dans les détails, mais par rapport aux Irakiens, les milices irakiennes,
je voulais justement qu'on parle des milices irakiennes, mais puisque vous ouvrez le sujet pour moi, allez-y. Présentez-nous peut-être en quelques mots qui sont ces milices, ces proxys, ces selon en Irak, et peut-être même leur raison d'être au départ. Comment et pourquoi ont-ils été fondés?
Déjà, en termes quantitatifs, la grande différence entre le Liban et l'Irak, c'est qu'au Liban, on a qu'un réseau. Une organisation, donc on sait avec qui on parle, comment on analyse les comportements. Mais en Irak, vous avez au moins 80 organisations miliciennes, hein, avec des écoles complètement différentes et avec des systèmes de pensée complètement. Alors, ça, c'est la première. La deuxième différence avec le Liban, c'est qu'au Liban, vous avez un président de la République, vous avez un gouvernement qui souhaite désarmer le Hezbollah.
Or, en Irak,
vous avez un État qui souhaite garder les armes des milices.
Et qui souhaite même les intégrer à leur système.
Ils sont déjà intégrés.
En partie, qui souhaitent les intégrer à leur armée.
Ils sont intégrés, ils sont au sein du Mukhabarat, au sein de l'armée, au sein du gouvernement. Comme je dis, l'ambassade de UNESCO, là, ici à Paris, c'est un commandant en chef des milices. L'ambassadeur au Vatican, c'est le frère de Hadi Amri. Autrement dit, ils ont l'État, ils sont l'État en Irak. Donc ça, c'est une différence énorme. Moi, M. Assoudani a déployé tous les moyens pour convaincre Donald Trump pour dire « Ne touchez pas aux armes des milices ». Or, au Liban, c'est l'État qui souhaite désarmer les milices. Et bon, allez-y.
Non, je vous coupe Adel Bakawan parce que j'avais promis à Agnès Levallois de maîtriser le temps de parole.
Non, mais là, moi, sur les milices irakiennes,
vous allez quand même, Agnès Levallois, répondre à ma question là-dessus. Pourquoi, à votre avis, en Irak non plus, cette milice ne franchit pas le cap du combat et de l'entrée en guerre?
Alors d'abord, effectivement, comme l'a dit Adèle, il y a plusieurs milices. Hein, le paysage est beaucoup plus diversifié qu'il ne l'est au Liban. Et que les milices iraniennes, pour l'instant, à mon avis, attendent de voir aussi un peu comment la situation va évoluer et se rendre compte quand même de la violence des attaques qui sont menées par Israël et par les États-Unis. Et que je pense qu'ils sont plutôt dans une attitude à ce stade, en tous les cas, d'essayer de se préserver. Mais là, je parle vraiment sous le contrôle de Adèle, qui connaît ce sujet précis beaucoup mieux que moi.
Alors Adèle Bakawan, est-ce que ces proxys irakiens se préservent ?
Écoutez, à ce jour-là, les 80 organisations miliciennes, au-delà des déclarations, même aujourd'hui, on avait une déclaration de Kataeb Hezbollah qui disait que nous allons venger, etc. Mais au-delà des déclarations, ces milices, ils ont un vrai État. Ce qui n'est pas le cas au Liban. Mmh. Au Liban, le Hezbollah n'a pas l'État. Au nom de quelle légitimité ils vont mettre en grand danger depuis 1400 ans, c'est la première fois dans l'histoire de l'Irak que les chiites dirigent le pays. Mmh. Aujourd'hui, en s'engageant dans cette guerre-là, il est fort probable, comme ils ont perdu la Syrie, ils perdent également l'Irak.
Mmh. Pour bien comprendre ce que vous dites, Adèle Bakawan, est-ce que cela signifie que, d'une façon générale, si ces proxys inscrits dans le territoire irakien, inscrits même, vous le dites, hein, dans ces institutions irakiennes, s'engageaient dans cette guerre, au fond, c'est bien plus que ces proxys qui s'engageraient, ce serait l'État tout entier en Irak qui irait et qui entrerait en guerre.
C'est pourquoi je pense, scientifiquement parlant, le terme de proxy ne convient pas. Vous avez des groupes armés. À l'intérieur de ces groupes armés, vous avez la mobilisation populaire, et ensuite vous avez l'axe de la résistance, et ensuite vous avez le front de la résistance. Et ces groupes-là, ils ont une certaine relation avec la République islamique. Mais c'est vrai aussi, ils ont leurs propres intérêts économiques, sociaux, politiques. Par exemple, je vous donne un exemple et je m'arrête, le groupe Asaïb al-Ahl al-Haq. C'est un groupe ultra radical. Mais c'est ce groupe aujourd'hui qui refuse s'engager dans cette guerre-là. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il a le ministère de l'enseignement supérieur, de la culture, de l'éducation, etc. Autrement dit, c'est ça. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu très très important. D'un ce mot. Qu'on appelle en arabe al-hakimiyya shi'iyya, c'est-à-dire la gouvernance chiite. Si le grand souci de ces milices, si jamais ils s'engagent, ils ont peur de perdre cette gouvernance chiite et la gouvernance revient aux sunnites.
On continue d'essayer de comprendre avec vous deux qui sont aujourd'hui les soutiens de l'Iran. Est-ce que l'Iran a bel et bien des soutiens sur qui compter dans cette guerre ? Je voudrais vous faire entendre la voix dans une autre région du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov.
Nous nous prononçons catégoriquement et résolument en faveur de la cessation immédiate des hostilités par toutes les parties. Et nous ferons tout notre possible pour mettre fin à toute action entraînant des pertes civiles, que ce soit en Iran ou dans tout autre pays du Golfe Persique. Nous entendons régulièrement parler des objectifs de cette guerre, mais nous ne voyons toujours aucune preuve que l'Iran développait des armes nucléaires, ce qui était la principale, voire la seule justification de cette guerre. Le droit d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques est inaliénable. Il n'est probablement pas très réaliste de dire que l'Iran, seul au monde, devrait renoncer à ce droit dont jouissent les autres États.
Bon, le moins que l'on puisse dire, Agnès Levallois, c'est que la Russie n'est pas l'allié le plus fidèle. Hein. Assad en Syrie, ils n'ont rien fait. Maduro au Venezuela, ils n'ont rien fait. Le guide suprême en Iran, à part une déclaration de principe, il ne semble pas vouloir s'engager dans ce conflit. Alors, comment se fait-il que la Russie reste tout à fait statique aujourd'hui ?
La Russie, d'abord, a un autre sujet majeur qui l'occupe et qui la préoccupe, qui est la question ukrainienne et qui, pour elle, est bien supérieure en termes d'intérêt que ce qui se joue actuellement dans la région. Et que la Russie sait très bien qu'elle n'a absolument pas les moyens de rentrer en confrontation avec les États-Unis sur cette question-là. Donc, on revient à une situation qui me rappelle finalement la situation qui était celle au moment de la chute du mur de Berlin, où on a vu l'URSS qui devient la Russie et qui, pendant quelques années, a été complètement en dehors de la région de ce Proche et du Moyen-Orient, parce qu'elle avait d'autres préoccupations et que, n'ayant pas la capacité et les forces suffisantes pour être présente sur différents terrains, en fait, elle avait complètement laissé le champ vierge au Moyen-Orient, et on l'a vu réapparaître une fois que la Russie a été prise en main par Poutine, et à ce moment-là, avec à nouveau des intérêts qui ont été mis en avant et qui ont été développés. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette situation aujourd'hui, où on a une Russie, donc la priorité, c'est l'Ukraine, des relations extrêmement compliquées avec Washington. Et donc, quel serait l'intérêt aujourd'hui de la Russie d'apporter un soutien et quel type de soutien? Les armes, la Russie en a besoin pour sa guerre en Ukraine. Je rappelle que jusque-là, c'était quand même plutôt l'Iran qui livrait des missiles
à la Russie.
Et des drones à la Russie. Donc là, peut-être que là, effectivement, Téhéran va un peu plus compter ses armes parce qu'elle a besoin de les garder pour son propre usage. Et donc, que peut faire la Russie de plus aujourd'hui, si ce n'est effectivement d'avoir quelques déclarations? Il y a eu des déclarations comme quoi il fallait que c'était inadmissible que le droit international soit violé. Alors, sur le principe, je suis complètement d'accord avec cette déclaration. Dans la bouche des Russes, c'est une autre question. Mais finalement, cette attitude très, très molle, c'est le moins qu'on puisse dire, de Moscou, ne surprend pas du tout dans le contexte de la région et de la position particulière de la Russie.
Quelle était jusqu'alors, Adel Bakawan, la nature justement de cette relation entre la Russie et l'Iran? Ils avaient signé quelques accords stratégiques dans lesquels il n'y avait pas de clause liée à une obligation de défense mutuelle, mais quand même, il y avait une proximité stratégique entre ces deux pays.
C'est vrai, il y a toujours une proximité stratégique entre les deux pays, mais en discutant avec les Iraniens, enfin les dirigeants de la République islamique d'Iran, moi j'ai compris qu'ils ne se faisaient absolument pas d'illusions sur la Russie.
Les Iraniens eux-mêmes.
Oui, ils savaient très bien, même après le 7 octobre, quand j'ai eu des dialogues ici en France ou au Moyen-Orient avec eux, ils savaient très bien que la Russie ne pouvait jamais s'engager. La Russie n'est objectivement pas en mesure de s'engager ni pour l'Iran, ni pour la Syrie, ni pour aucun pays. Parce qu'ils n'avaient pas cette illusion. Ils comptaient absolument pas ni sur la Russie. Peut-être vous allez parler des Chinois aussi. Donc, autrement dit, il faut pas prendre les dirigeants iraniens pour des idiots culturels. Ils sont des gens pragmatistes. Ils savent très très bien qu'ils ne peuvent pas compter sur l'Iran, qu'ils ne pouvaient pas. Et dans l'avenir, mais en termes de coopération, on a des informations. Bien évidemment, à vérifier, la Russie, quand même, dans le cadre de ces traités signés, a fourni à l'Iran certaines catégories d'armes. Mmh. Mais ce n'est pas avec ces armes que les Iraniens peuvent trancher.
Vous l'avez suggéré, Adel Bakawan, la Chine, les Chinois. Parlons-en, justement, Agnès Levallois. Là aussi, c'est une relation particulière qui unit la Chine et l'Iran. La majorité du pétrole chinois vient d'Iran. La Chine est le premier importateur de pétrole iranien. 80% du pétrole iranien rejoint la Chine. Là encore, comment se fait-il, non pas que la Chine n'intervienne pas, c'est pas dans sa nature, c'est pas sa zone d'influence, c'est pas dans ses intérêts directs, mais comment se fait-il que la Chine ne tape pas un peu plus du poing sur la table, Agnès Levallois?
Parce que la Chine, là aussi, est dans une relation compliquée avec Washington, et que je pense que la relation avec Washington, aussi compliquée soit-elle, prédomine dans les intérêts stratégiques chinois plutôt que la relation avec l'Iran. Donc on a vu quand même les Chinois apporter du matériel et livrer du matériel aux Iraniens, leur permettant de fabriquer des missiles. Donc il y a quand même une coopération qui a été révélée par certains journaux, comme quoi quand même les Chinois participent, ou en tous les cas donnent ce coup de main aux Iraniens. Mais que, et là on voit bien que les Chinois d'ailleurs ont réagi beaucoup plus sur la question du détroit d'Ormuz, puisque ça rejoint ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire que les Chinois ont besoin de ce pétrole iranien, et donc eux, ça leur pose un vrai problème que le détroit d'Ormuz soit fermé, parce que ça empêche la sortie de ce pétrole iranien et qu'ils rejoignent la Chine. Donc ça, ils vont se battre sur ce point-là, mais pour le reste, ils sont très prudents.
Si on regarde, l'entièreté du paysage aujourd'hui, Adel Bakawan, on a bien compris que, à part le Hezbollah, peut-être justement au nord d'Israël, l'Iran ne peut compter sur absolument personne. Personne ne viendra aujourd'hui soutenir le régime dans cette guerre.
Même le Hezbollah, les opérations de Hezbollah en Israël, c'est vraiment très très symbolique. Ces attaques n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en 2006. En 2006, lorsque le Hezbollah pouvait brûler presque la totalité d'Israël. Aujourd'hui, on est très 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 loin. Non, pour répondre à votre question, oui, la République islamique d'Iran, même pendant la guerre des 12 jours, n'a jamais été aussi seule, aussi isolée, aussi abandonnée. Elle est face à son destin, là. La République islamique est face à soi. Est-ce que pourtant la République va tomber. Pour moi, non. Pour moi, non. Pourquoi ? Parce que les quatre options...
Vous pensez qu'elle ne tombera pas ?
Alors, écoutez, pour faire tomber dans le contexte, et je dis bien dans le contexte iranien, il faut toujours contextualiser, pour faire chuter ce régime, il n'y a que quatre options. Rapidement, la première option, c'est envoyer des troupes au sol. Les Américains, les Iraniens ne le font pas. Ils ne vont pas envoyer 150 000 soldats, même si hier après-midi, Donald Trump a appelé Barzani et Talabani, les deux, pour dire si jamais on s'engage dans cette guerre, est-ce que les Peshmerga pourraient... La deuxième option, c'est la défection, par exemple, de l'armée régulière par rapport au Pasdaran. À ce jour-là, on n'a aucun signe. La troisième option, c'est descendre, voire sur 90 millions d'Iraniens, voire 10 millions d'Iraniens dans la rue. On n'en a pas. On a 1000, 2000, 3000. C'est pas avec 2000 ou 3000 ou même avec 100 000 que le régime tombe. Mais par contre, si vous avez 10 millions d'Iraniens dans la rue, c'est fort probable. Et bien évidemment, la dernière option, c'est avoir une opposition unie, unifiée, centralisée, armée aux frontières.
Pour ce qui n'existe pas aujourd'hui.
Ça n'existe pas. Les moujahidines du peuple considèrent Reza Pahlavi comme le traître de la nation et vice-versa. Les Kurdes ne parlent pas avec les Balouches qui ne parlent pas avec les Azaris. Autrement dit, vous avez une opposition fragmentée. C'est pourquoi je dis, si on ne change pas, si les Israéliens et les Américains ne changent pas leur paradigme, il est fort probable que le régime reste.
Vous m'en voudrez pas l'un et l'autre de faire l'émission à l'envers, mais je viens de recevoir un email d'une auditrice qui me demande si l'on pouvait donner une définition du terme de proxy que l'on entend à peu près partout et que l'on définit trop rarement. Agnès Levallois, qu'est-ce que c'est qu'un proxy au fond?
C'est une force qui va agir pour le compte d'un autre, d'un pays. C'est-à-dire là, en l'occurrence, eh bien, ce sont ces forces, que sont souvent des milices d'ailleurs, ou des mouvements qui vont, dans le cas du Hezbollah, c'est un mouvement libanais qui va agir sur instruction, dans le cas de Hezbollah, sur instruction des Iraniens qui vont dire au Hezbollah, eh bien voilà quelles sont la stratégie, voilà quels sont les éléments à mettre en avant ou la lutte contre X ou Y. Donc c'est vraiment c'est comme ça que je définirais.
Oui, mais Adel Bakken, alors oui. En réaction, pourquoi ce terme-là ne vous plaît pas en une minute?
Parce que tout simplement, les Houthis, est-ce qu'on peut les considérer comme des proxys? Non, ils n'entrent pas en guerre. Les milices irakiennes, par exemple, est-ce qu'on peut les considérer comme les Houthis, on appuie sur un bouton, ils veulent pas entrer dans la guerre. Or, s'ils étaient des proxys, ils entraient directement dans les guerres. Ils ont des intérêts, ils ont leur manière d'être, leur objectivité. Ils sont dans une relation de réciprocité avec la République islamique.
Donc, ils ne sont pas justes, c'est ce que vous nous dites, ils ne sont pas juste l'émanation du régime iranien.
Ils exploitent la République islamique d'Iran comme la République islamique d'Iran les exploite. La réciprocité entre les deux.
Et c'est vrai qu'ils ont leurs propres intérêts, ils ont leurs propres intérêts à défendre. Dans le cas des Houthis, pour moi, c'est le meilleur exemple. Ils ont leurs propres intérêts. Et donc, ils peuvent, parce qu'ils ont une collaboration avec l'Iran, ils ont eu besoin de l'Iran, parce que l'Iran les a armés contre les Saoudiens. Et donc, les Iraniens ont utilisé aussi les Houthis contre l'Arabie Saoudite à l'époque où les relations étaient très mauvaises. Mais ils ont aussi leur propre agenda et ils peuvent accepter ou non de mener telle ou telle opération. Dans le cas du Hezbollah, c'est peut-être le cas où le terme de proxy est le plus évident,
le plus efficace,
parce que effectivement, en tous les cas, il y a une partie du Hezbollah qui répond complètement à la volonté, à la stratégie de l'Iran, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Iran a créé ce mouvement, ne l'oublions jamais.
On avance bien mieux avec vos lumières dans ce brouillard de la guerre, donc merci beaucoup à tous les deux, Agnès Levallois, Adel Bakawan, et aussi un très très grand merci à celles et ceux qui ont repensé cette émission durant le week-end, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancé, Antoine Héral. À suivre après le journal, on va rester au Moyen-Orient et poser une autre question complémentaire: les pays du Golfe sont-ils belligérants malgré eux de ce conflit?